Bonjour à tous. Comme chaque semaine, nous nous retrouvons dans l'émission Rencontre sur Radio Accor, en partenariat avec l'association des Amis des Chemins de Saint-Jacques en Vienne.
Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons plus loin. Jour après jour, la route nous appelle. C'est la voie de Compostelle.
Je m'appelle Joseph et aujourd'hui nous recevons Monique, Gérard et Guy, avec qui nous allons parler du Camino del Norte, chemin du Nord en Espagne. Bonjour Monique.
Bonjour Joseph.
Bonjour Gérard.
Bonjour Joseph.
Bonjour Guy.
Bonjour Joseph.
Alors, vous allez me dire qui vous présenter d'abord, qui êtes-vous et qu'avez-vous fait comme chemin avant de faire le Camino del Norte. Monique.
Oui, donc je m'appelle Monique, je suis à la retraite et j'ai d'abord commencé par faire de la randonnée avant de me projeter dans le chemin de Saint-Jacques et j'en suis, le chemin du Nord, c'est mon deuxième chemin en fait.
Gérard. Je me prénomme Gérard, j'ai 66 ans, j'ai commencé par profiter d'être à la retraite pour chaque année, m'inviter sur un des chemins. J'ai parcouru le Puy Saint-Jacques, j'ai parcouru Poitiers jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, j'ai parcouru Arles par le Somport jusqu'à Puenta de la Reina et revenu en sens inverse jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et l'an dernier, j'ai donc parcouru le chemin du Nord.
Je m'appelle Guy, je suis en retraite depuis 5 ans. J'ai fait le chemin deux fois, il y a 2 ans, j'ai fait le chemin traditionnel. Et c'est tout par hasard que je suis arrivé. Un jour, j'ai rencontré un monsieur de l'association à un repas. Il m'a raconté son chemin, mais avec un enthousiasme tel que je me suis dit, je devrais tout de même essayer de le faire. Je voulais me prouver que je pouvais le faire. Moi, un électron libre, chaotique physique, c'était pas évident. Et bon, je l'ai fait, c'était difficile et j'ai recommencé l'année passée. Et bon, c'était une expérience très profonde.
Alors pourquoi ce chemin et votre motivation?
Pour moi, Monique, pourquoi ce chemin? D'abord, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé par faire de la randonnée. Ensuite, j'ai fait un petit bout du chemin de Saint-Jacques sur le chemin du Puy. Mais il faut dire que mon mari est parti en 2003, lui, faire le chemin de Saint-Jacques complet, c'est-à-dire Poitiers-Santiago. Mais moi, à cette époque-là, je n'étais pas très, très motivée et... Je me suis décidée en 2008. En 2008, je voulais bien faire Saint-Jacques, mais j'avais besoin d'un chemin calme, tranquille, sans trop de monde. Donc, j'ai demandé à un groupe d'amis qui partaient pour le Portugal si je pouvais, avec mon mari, les accompagner. Donc, ce chemin a été mon premier chemin. Nous sommes partis à 3 couples et nous avons donc fait Lisbonne-Saint-Jacques. Et je crois que là, j'ai vraiment attrapé le virus. Ce qui fait... Voilà.
Eh bien, moi, Gérard, pour ce énième chemin, j'ai voulu revivre à nouveau une condition un peu de nomade, en me libérant des contingences du quotidien. J'ai voulu retrouver un temps privilégié au plus près de la nature, bénéficier des curiosités des paysages, côtoyer celui qui croit au ciel et celui qui n'y croit pas, et puis également découvrir cette Espagne verte avec successivement le Pays basque espagnol, la Cantabrie, les Asturies et évidemment la Galice.
Pour moi, la motivation était différente la première fois et la deuxième fois. La première fois, c'était un défi. Je suis allé, je me suis foncé. Je n'étais pas sûr de moi-même, je doutais, je racontais à tout le monde que je partais, mais dans ma tête, je ne le savais pas. Et puis, à force de le dire à tout le monde, je suis tout de même parti tout seul, c'était l'aventure. Et bon, au début, c'était comme des marches qu'on fait dans la nature. Mais à fur et à mesure, on s'aperçoit qu'il y a d'autres dimensions qui s'invitent sans qu'on le veuille. Et à la fin du premier chemin, j'ai retrouvé quelque chose que j'avais jamais ressenti, une paix interne. Je suis très agité, très nerveux. Et là, pendant des mois, j'avais un calme inouï. Et c'est pour retrouver cette paix intérieure que je me suis lancé une deuxième fois, mais pas sur le même chemin. J'ai voulu aller au-delà et de prendre un chemin un peu plus différent, moins de monde, avec plus de solitude. Et c'est pour ça que j'ai choisi le Camino del Nord, qui était aussi physiquement beaucoup plus dur que le premier. Et tout s'est bien passé et j'ai retrouvé ce que je cherchais. Et je repartirai encore un jour pour retrouver cette paix intérieure.
Vous l'avez fait à quelle époque ?
Nous, on est partis le 30 août, en fait, à la fin de l'été, donc, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à supporter la chaleur, donc il fallait laisser passer l'été, et j'aime bien partir en automne, moi. Pourquoi ? Simplement, je pense, mais ça ne l'engage que moi, je pense qu'il pleut moins, et comme je suis un peu... je n'aime pas trop la pluie. Bon, c'est vrai ou pas vrai, je ne sais pas. Hein. Donc, voilà les raisons pour lesquelles nous avons pris ces dates. Donc, nous sommes partis donc, le 30 août et nous sommes arrivés à Santiago le 2 octobre.
L'année dernière, cette année ?
En 2009, oui, c'est l'année dernière en fait.
Pour ma part, je préfère faire ça à la fin du printemps. Donc, en général, j'apprécie mai-juin. Ça permet d'avoir le jour qui se lève de bonne heure. Ça permet d'avoir, certes, de la pluie, mais aussi beaucoup de soleil et la nature qui se découvre de plus en plus. Donc, en 2009, nous avons parcouru cela du 7 mai au 6 juin.
Donc, moi, je suis parti de Bayonne le 17 août et je suis arrivé début octobre à Santiago. Bon, je n'ai pas eu de réflexion particulière. C'est surtout l'agenda qui ne me permettait pas de partir plus tôt. Bon, j'ai tout de même souffert des touristes, surtout en France. Tout était bondé, il y avait des difficultés à trouver à dormir parce qu'il y avait tellement de touristes. Et donc, si je le referais, je repousserai la date de départ.
Si j'ai bien compris, vous étiez juste devant Monique ou derrière, non ?
Devant. J'étais juste devant Monique. Mmh. Bon, on était 15 jours. Bon, mais ça s'est rapproché parce qu'il marche plus vite que moi. Et donc, on était en contact par SMS, par texto. Quand j'avais des choses que j'avais vues, on se communiquait les bonnes choses.
Les mauvaises aussi.
Et les mauvaises choses à éviter. Choses à éviter. Par exemple, puisqu'on en parle, juste devant Saint-Sébastien, j'ai été pris par une famille qui m'ont nourri, hébergé. On s'est trouvé dans une communauté, on ne savait pas très bien. Mais c'était indiqué nulle part. Et là, je leur ai envoyé un texto. Il faut y passer parce que c'est un endroit sublime. Les gens sont gentils, on mange bien, on dort bien. Et en plus, ils sont très conviviaux. Eh ben, c'était très bien.
Ah oui, ça m'a beaucoup rendu service parce que la première étape qui fait Irun-Saint-Sébastien est très, très dure. En plus, il faisait très chaud. Donc, j'étais très fatiguée. Et en fait, on s'est arrêté à cette étape-là où on a été accueillis par des gens merveilleux.
Quelle durée vous avez mis là ? Vous avez donné les dates, mais en durée, ça fait combien de semaines ?
Première étape, le 30 août, j'ai dit, et on a terminé à Santiago le 2 octobre, donc ça nous fait 35 jours.
Eh bien, moi, je dois dire que la nature m'a permis de marcher, de randonner plutôt sportivement, donc nous l'avons fait avec mon copain en 33 jours.
Je pense que tu n'as pas pris tout à fait le même chemin que nous.
Effectivement, nous avons bifurqué, c'est-à-dire que nous avons choisi de passer par l'option de la côte.
Donc nous on a pris le Camino Primitivo. Bon, j'ai fait tout ça en 50 jours. Donc je vagabondais parce que Moi, j'aime bien vagabonder, je suis un électron libre, j'aime bien me sentir comme ça. Et bon, je fais entre 20, 30, parfois 35 km par jour, pas plus. Et donc, je suis allé jusqu'à Fistera. Ça m'a pris à peu près, après 50 jours, je suis revenu à Poitiers.
Vous êtes tous rentrés à pied ou en moyenne de locomotion?
Moyenne de locomotion, par le bus.
Par le train.
Moi, j'ai pris le train. Mais j'ai rencontré des pèlerins qui... d'ailleurs, il y a quelqu'un de Poitiers qui est parti de Poitiers jusqu'à Fistera, que j'ai rencontré en cours de route, que j'ai revu quand il est revenu de Fistera et qui retournait à pied par Burgos à Poitiers.
J'ai eu l'occasion de faire l'expérience d'un retour partiel, si je puis dire, entre Puenta de la Reina et Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est curieux de croiser un flot important de pèlerins et puis de nous d'être en sens inverse. Beaucoup vous disent avec humour, et je terminerai là-dessus, non, c'est dans l'autre sens.
Vous écoutez l'émission Rencontre sur Radio Accor. Aujourd'hui, nous recevons Monique Gérard-Egui, avec qui nous parlons du Camino del Norte, chemin du Nord en Espagne. Donc vous êtes rendu sur place avec un moyen de locomotion. Vous êtes arrêté en France, vous avez commencé avant pour s'entraîner un peu ou vous avez démarré en descendant du train ou du moyen
Oui, bah du pour ce qui est de moi, on a fait Poitiers-Irun en train. Et ensuite, on a démarré carrément d'Irun à pied, Irun-Saint-Sébastien. Enfin, un petit peu avant Saint-Sébastien, dans le coup, puisqu'on s'est arrêté trop fatigué un peu avant. C'est peut-être pas la bonne formule. Je pense qu'il faudrait être plus raisonnable et faire quelques étapes plus calmes avant.
Bah, en ce qui me concerne, j'ai pris le train, le TGV jusqu'à Hendaye. Et puis à Hendaye, je suis sorti de la gare. J'ai pris la navette, le Tipo, qui est tout de suite à droite, qui est un petit train basque, mais qui circule constamment. Et puis après, l'albergue à Irun pour se lancer dans cette nouvelle aventure.
Moi, j'ai pris le train jusqu'à Bayonne. Je suis parti de Bayonne. D'ailleurs, la partie Bayonne-Hendaye, ça a été la galère, beaucoup de monde, le chemin mal indiqué. Malgré que le sentier du littoral qui longe les falaises basques, c'est très joli, mais il y avait un monde. Et puis, une fois le soir, c'était très difficile de trouver à dormir à un prix raisonnable. Tous les hôtels étaient pleins. Et bon, j'ai dormi chez l'habitant à un prix exorbitant, mais il fallait dormir. Et puis j'ai pris le petit bateau à Hendaye qui passe de l'autre côté de la rive. Et là, j'ai retrouvé la flèche jaune. Ah, c'était le bonheur de revoir cette flèche jaune et de voir qu'on était soutenu.
Alors la flèche jaune, c'est la marque de balisage du chemin en Espagne, c'est bien ça?
Bien sûr.
Avez-vous rencontré des problèmes d'hébergement ?
Pas trop. C'est vrai que sur le Camino del Norte, il y a moins d'albergues que sur le chemin traditionnel. Bon, on s'arrange un peu et s'il n'y a pas de place, on trouve des petites pensions à des prix très raisonnables. Mais il faut un peu tenir compte tout de même, hein, parce que ce n'est pas aussi évident que sur le Camino traditionnel.
Oui, par contre, il s'en ouvre apparemment tous les ans des nouveaux des albergues sur le chemin du Nord. Nous, ce n'était pas très complet. On n'a jamais eu de soucis, si ce n'est une fois où l'albergue n'était pas très, très bien tenu. Je dirais même pas bien tenu du tout. Mais bon, comme à Digui, on trouve des petites pensions à des prix très raisonnables.
Gérard ?
En mai-juin, on n'a pas ce problème de foule. Bien au contraire, je dirais qu'à cette époque, nous ne sommes que quelques-uns comme pèlerins à nous croiser de temps à autre. Il faut préparer un petit peu, si vous voulez, son trajet. Donc, d'une part, sur Internet, on obtient des informations. On les obtient déjà avec l'Association des Amis de Saint-Jacques, où certains qui l'ont déjà parcouru peuvent nous donner des informations. Ensuite, eh bien, dans chaque province, puisque c'est assez particulier ce chemin du Nord, les offices du tourisme nous donnent également des informations et puis il existe des guides intéressants. Donc nous, on a alterné entre des albergues, des auberges de jeunesse, des hôtels, monastères et des chambres d'hôtes. Voilà pour donner ces témoignages.
Avez-vous quelques rencontres à nous faire partager ?
Ah oui, ça, il y en a toujours beaucoup. Hein. L'émission ne va pas être assez longue pour tout raconter. Non, simplement, je dirais que nous avons eu la très grande surprise de retrouver un Australien que nous avions déjà rencontré l'année précédente sur le chemin du Portugal. Ça a été vraiment un immense bonheur. Et puis, beaucoup d'autres personnes, mais en particulier.
Oui, il faut être ouvert. Il y a des jours où on rencontre très peu de gens et très, très peu de communication, surtout si on marche tout seul. Et puis, il y a des moments où on retrouve des gens intéressants ou dans des conditions intéressantes. Par exemple, je pense à Cyril, un jeune homme de 37 ans que j'ai rencontré tout à fait au début. Il avait une infection au pied, il était agité, il ne se sentait pas bien dans sa peau. Et puis c'était tout. Et une semaine ou deux semaines après, j'étais dans une descente et je pensais à lui. Et pendant la journée, il m'a dépassé. Et là, on a été le soir à quatre dans un refuge tout seul. J'ai cuisiné pour eux. Et puis il a raconté son histoire. Il était plein de chagrin d'amour, plein de rage. Sa copine qui avait organisé cette marche avait tout décommandé. Elle avait rompu la relation en disant qu'elle était enceinte de quelqu'un d'autre. Ça a été une soirée qui m'a marqué parce qu'on a parlé toute la soirée. Il a pleuré, voir quelqu'un pleurer de 37 ans qui est dans... Qui semble très bien, ça marque. D'ailleurs, il ne pouvait pas rester à table, il y avait des vaches en face, il mangeait trois fourchettes et puis il sortait, fumait une cigarette et il parlait aux chèvres, aux vaches, à tout ce qui passait. Et puis il rentrait, puis il continuait et ça a duré comme ça toute une nuit. Les deux jeunes filles qui étaient avec nous, ils ne savaient pas ce qui leur arrivait. Et c'était ça m'a marqué. D'ailleurs, je l'ai rencontré une dernière fois quand il est parti en France, à Santiago, avant de prendre son bus. Eh bien, il a encore parlé. J'espère au moins que je l'ai su consoler un tout petit peu.
Gérard ?
Moi, au niveau des rencontres, je vais faire dans d'autres témoignages. À Irun, par exemple, au départ, l'hôpital Hérault nous demande gentiment « Est-ce que vous voudriez venir à la messe ?» Donc nous y sommes allés et notre grande surprise, il nous a fait applaudir, si vous voulez, par tous les fidèles qui étaient là. C'est une expérience que nous n'avions pas encore vécue auparavant. Qu'est-ce que je donnerais comme autre exemple ? À Guémès, par exemple, il y a un père Ernesto qui tient l'alberg, qui est un ancien missionnaire, qui nous a fait une longue explication sur les déforestations dans cette région du nord de l'Espagne et le fait qu'ils plantent des eucalyptus partout qui, ne permettent plus aux autres végétations de pouvoir continuer à vivre alors qu'elles étaient là à l'origine. À San Vicente de la Barquera, on a rencontré les amigos Sofia et Luis qui tiennent cet albergue, qui sont chaleureux et qui font venir le padre, si vous voulez, à la fin, pendant le repas pour venir nous bénir. Le lendemain, avant de partir, on doit passer évidemment, et on le fait volontiers, à la photographie de tout le groupe parce que tous les murs de la salle principale sont tapissés de ces photos. Voilà quelques témoignages.
À Guémès, le matin, j'étais un des derniers, il y a une grande table, j'étais là, je voyais par cette grande porte le soleil qui se levait, j'avais mon bol de café, il y avait les quatre saisons de Vivaldi, qui, la musique, et puis il y avait la douceur de Don Ernesto, ce sont des moments inoubliables.
Privilégiés.
C'est un personnage vraiment extraordinaire.
Vous avez quelque chose à rajouter, Monique ?
Non, simplement que Don Ernesto, c'est vraiment un personnage extraordinaire, c'est tout.
Il a quel âge ?
Bah, il a 70 ans, quelque chose comme ça. Il a une longue barbe, mais il s'est impliqué en Inde, il s'est impliqué avec des enfants.
Beaucoup en Amérique centrale. Et entre autres, il a des latinos qui travaillent sur place.
Oui, j'espère surtout qu'il pourra continuer à maintenir ce gîte, parce qu'apparemment, il a de gros soucis.
C'est sa maison natale, hein. Le gîte, il a...
Je lui souhaite beaucoup de... De courage.
Il avait ajouté des choses à sa maison où il est né, et ils ont vraiment des soucis de maintenir avec, parce que c'est Donativo.
Oui.
Et donc.
Alors Donativo pour nos auditeurs, c'est on donne ce qu'on peut.
Oui.
Hein, dans notre terme.
Ce qu'on peut et ce que l'on veut aussi, car il faudrait vouloir parfois plus.
Oui, tout à fait. En l'occurrence.
Globalement, vous appréciez quelles sont vos appréciations sur ce chemin?
Ah, pour moi, c'est le calme, la paix, les paysages magnifiques, bien sûr, mais c'est surtout le calme. Les gens que l'on rencontre, il n'y en a pas trop, juste ce qu'il faut. Les hospitaliers qui sont agréables, qui vous aident, qui sont près de vous. Et tout ça, ça vient du fait que c'est encore un chemin calme. Voilà.
Gérard ?
Moi, je dirais que c'est contrasté lorsqu'on a vécu avant l'expérience du chemin français. En ce sens que là, on est effectivement, comme le disait Monique, dans le calme. Ça, c'est essentiel. Par contre, c'est quand même beaucoup plus physique, il y a des dénivelés, mais on a des moments, je dirais, magiques. Quand on est un petit peu sur les falaises et qu'on aperçoit l'océan que l'on va côtoyer sur tout ce chemin du Nord, lorsque parfois et même plusieurs fois on descend marcher sur la plage en tant que randonneur, ça c'est des moments que je n'avais encore jamais vécu à ce jour. Je dirais également faire ces petites traversées, si je me rappelle bien, il y en a trois en petits bateaux, parfois de manière un peu primitive, c'est très très sympathique. Et puis il y a aussi des expériences intéressantes, entre autres le père Ernesto nous avait suggéré de faire de sortir un peu du sentier balisé pour en prendre un autre, et là nous avions découvert ce qu'on appelle les buffrones par exemple. Ça c'est des moments aussi magique en communion avec la nature. Donc franchement, je pense que c'est une autre façon de vivre le chemin dans cette Espagne verte.
Oui, c'est vrai, c'est ce chemin, il est beau, joli, mais très dur physiquement. Mais il faut tout de même aussi dire l'autre côté de la face, qu'il y a aussi beaucoup du béton, des bitumes. C'est pas toujours... on voit l'industrie, il y a à un moment donné... On longe un tube des kilomètres et des kilomètres d'une usine chimique. Et ben tout ça, c'est pas très 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 joli, ça aussi. Et puis il y a tout de même, faut tout de même dire, il y a aussi des moments de détresse et des moments où on se dit mais qu'est-ce que je fous sur ce chemin avec des ampoules, se sentant pas bien, tout ça. Donc ces moments, il y en a aussi. Il y a beaucoup de moments très 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 forts, mais il y a aussi des moments où ils sont heureusement moindres.
Les oublie tout de suite.
On les oublie tout de suite, c'est vrai.
Et vous en rappelez encore par avant.
J'ai eu des ampoules, par exemple. La première fois, j'ai eu pas de problème d'ampoule. Cette fois-ci, j'en ai eu et très longtemps. Et puis, ça, c'est une anecdote. Je ne sais plus où j'ai eu cette idée. Mais je me rappelais quelque part que des protèges slip de femmes pourraient m'aider. Alors donc je suis allé dans un magasin, et puis donc vous voyez en pèlerinage un grand paquet de protège slip. Donc la caissière m'a regardé de drôles de yeux pour dire mais qu'est-ce qu'il fait ce type avec, eh ben ça servait à coller sur ses semelles et voilà, donc ça m'a aidé très très fortement par exemple.
Alors je voudrais bien rajouter que avec une bonne préparation aussi, ne pas souffrir des pieds, moi je peux en témoigner, hein.
Oui, je m'étais mal préparé, voilà. Je vous l'accorde.
Tout à fait.
On écoutera beaucoup de conseils la prochaine fois pour aller marcher. Donc à la semaine prochaine pour une autre rencontre avec d'autres témoins du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Merci et au revoir Monique. Merci et au revoir Gérard.
Au revoir.
Merci et au revoir Guy.
Merci.
Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons plus loin. Jour après jour, la route nous appelle. C'est la voie de mon.